Radio Foot International. Annie Gasnier.
Bonjour, bienvenue à l'écoute de Radio Foot International sur RFI, votre rendez-vous avec le ballon rond sur la radio du monde. Et pour commencer, la rage de vaincre d'une vieille dame dans le temple de Wembley. La Juventus de Turin a gagné sa qualification en terrain adverse hier soir en piégeant Tottenham par une parfaite tactique teintée de Catenaccio. Un jeu à l'italienne pour éliminer des Spurs méritants et très déçus. Le duo d'Argentins, Higuaín-Dybala, s'est distingué en inscrivant les buts décisifs. Sans Tottenham, mais avec Liverpool et City, pour l'instant, deux clubs anglais sur trois sont au rendez-vous du prochain tour de cette Ligue des Champions, ce qui n'est pas une vraie surprise, disons. On fera le bilan d'ailleurs de ces premiers huitièmes de finale. Quel avenir pour le PSG, éliminé de la Ligue des Champions d'Europe? Quelle tactique pour les dirigeants afin d'atteindre ou du moins de se rapprocher de leurs rêves? Une première question, mais nous en aurons d'autres. Celle-ci, Neymar va-t-il rester au Paris Saint-Germain? Une question qui peut vous intéresser, Bruno Salomon, bonjour.
Oh oui, elle m'intéresse.
Vous la posez aussi.
Je ne vais pas dire que je me la pose toutes les nuits. Hein,
c'est Annie, la réponse qui m'a
mais déjà le jour.
Hein. Vous verrez bien tout à l'heure la réponse. Salut Annie, salut à toutes
à
et à tous.
À vos côtés, Gilles Verdez. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Et puis Habib qui arrive tout droit de Londres. Bonjour Habib.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Tu es partout, tu étais à New York, à Londres,
j'étais,
partout.
J'étais,
quoi.
Oui, à Paris Saint-Germain, à New York, à Londres, c'est vrai, un peu partout.
Quelle chance. Christophe Jousset, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Radio Foot, c'est parti. Aujourd'hui, ça ne vous aura sûrement pas échappé, c'est la journée internationale de la femme. Alors on va marquer un petit arrêt avec votre aide, hein, Christophe Jousset, et l'aide de vous autres aussi bien sûr. Un petit arrêt sur la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans. La compétition se disputera en fait en France cette année, durant l'été. Et plus précisément, plus qu'en France, ça sera en Bretagne, dans l'ouest de la France. Une région donc où s'est déroulé le tirage au sort à la mi-journée. C'était donc dans la ville du Parlement de Bretagne, à Rennes, de la main de Camille Abili, ancienne joueuse internationale française. Il y a 16 équipes qualifiées, évidemment, dont la France. Il y a aussi deux équipes africaines. Alors, qu'a donné le tirage au sort, Christophe?
Alors, le tirage, c'est sympa. D'abord, ça va commencer par un France-Ghana. Donc, ça c'est bien. Vous avez dit que ça se jouait en Bretagne. On va citer les villes. Concarneau, Dinan, Saint-Malo et Vannes. Et Philippe Zigraf, on lui envoie un petit coucou, d'ailleurs. C'est sa ville. Il habite juste à côté. Donc, je pense que le 5 août, il sera à France-Ghana pour l'ouverture. Les Françaises qui ont fait la finale de la dernière édition, elles avaient été battues par la Corée du Nord. Eh bien, elles joueront d'abord contre les Ghanéennes, en souhaitant un meilleur avenir, un meilleur sort aux jeunes Ghanéennes que celui qui a été réservé à leur grande sœur à l'automne dernier, parce qu'il y a eu un France-Ghana en amical chez les seniors en octobre dernier, et les Françaises avaient gagné 8-0. Ça nous rappelle PSG Dijon, non? Bon, bref. France-Ghana et Nouvelle-Zélande Pays-Bas, donc ça c'est dans le groupe A. Les tenantes du titre, les Nord-Coréennes, on les retrouve dans le groupe B en compagnie de l'Angleterre, du Mexique et du Brésil. Le Brésil qui présente la particularité d'avoir joué toutes les éditions de la Coupe du Monde des moins de 20 ans, c'est-à-dire que c'est sa 9e participation. On arrive chez les poids lourds du foot féminin mondial dans cette catégorie. Vous allez voir pourquoi. Il y a deux équipes qui ont gagné trois fois cette compétition, les États-Unis et l'Allemagne. Alors les États-Unis, vous les trouvez, les Américaines, dans le groupe C en compagnie du Japon, du Paraguay et de l'Espagne. Et les Allemandes seront dans le groupe D en compagnie de Haïti, des Chinoises et des Nigérianes qui sont l'autre pays africain présent dans cette Coupe du Monde des moins de 20 ans.
Alors vous l'avez rappelé, les filles sont vice-championnes du monde. Hein. Elles avaient perdu la finale mais donc remporté ce titre en Papouasie-Nouvelle-Guinée lors de la compétition. Gilles, alors les moins de 20 ans, c'est des filles qu'on connaît sans doute moins que celles des équipes nationales mais qui ont maintenant gagné leur place sur des chaînes. On commence à voir les matchs et on commence à le voir, surtout ce football féminin.
Oui, il y a une visibilité. Le football féminin, c'est franchement l'avenir et il faut intéresser les licenciés dès le plus jeune âge. Et là, Noël Le Graët a une politique extrêmement volontariste en voulant accueillir ce mondial. Lui, le Breton de Guingamp, donc c'est pour ça aussi que c'est dans l'Ouest. Et j'ai vu, juste avant de venir là, il lance, pas Le Graët, mais l'organisation lance un appel à des centaines de volontaires pour 25 missions différentes dans 13 corps de métier, parce que on veut que ce soit justement une fête populaire dans les stades et autour. C'est aussi ça, la première mission, c'est de sensibiliser à ce football féminin chez les jeunes. Ça part très bien. Il faut évidemment que les Françaises qui ont été finalistes, et puis la fois d'avant, je crois, troisième, poursuivent ces bons résultats, les bleuettes. Mais ça va être, à mon avis, c'est déjà en partie réussi. Et dans cette terre de football qu'est la Bretagne, c'est une très bonne idée.
Bruno,
il faut le foot féminin, il lui manque une seule chose pour la France, c'est de la visibilité, mais surtout une professionnalisation. C'est-à-dire que pour suivre le championnat de D1 féminine assez régulièrement et pour avoir suivi quelques coupes du monde, la France a un problème, c'est d'un championnat à deux vitesses, parce que on se plaint du Paris Saint-Germain qui écrase un petit peu la Ligue 1 de football, mais alors en D1 féminine, c'est un Olympique Lyonnais omnipotent, meilleur club du monde, qui
a déjà gagné des ligues européennes.
Tout à fait, à grands coups de milliers d'euros, qui recrute toutes les meilleures joueuses du monde, qui atomise toute concurrence, c'est-à-dire que on préfère mettre 30 joueuses dans un vestiaire et vraiment tenir le gratin. Et il faut absolument que des clubs comme Bordeaux, Marseille est en difficulté en ce moment, il va peut-être descendre, il n'y a peut-être pas eu assez d'argent et d'infrastructures pour maintenir. Mais il faut que ces jeunes femmes ne soient plus dans cette partie du monde un peu amateur, c'est-à-dire on fait des études, on continue et on va s'entraîner le soir. Il y a beaucoup de clubs qui sont comme ça, il n'y a que 4 clubs français qui vraiment jouent le professionnalisme. Je pense à Lyon, je pense au Paris Saint-Germain, je pense à Montpellier et je pense à un club comme Guingamp, parce que Guingamp, on le sait pas, mais c'est aussi une place forte et le président Le Graët a fait beaucoup là-dessus. Après, sur ces championnats du monde du vin, avec une chose qui me tétanise dans la gestion de l'équipe de France, c'est qu'on est parti sur un truc qui va pas du tout. C'est actuellement l'équipe A de Corinne Diacre va pas très bien, ne fait pas de résultats. Et il y a deux très très bonnes joueuses, dont l'attaquante Katoto, qui est une machine à but, qui vient du Paris Saint-Germain. Et on préfère la laisser en U20. Pour se dire, on va tenter de gagner la Coupe du Monde
des moins de 20
de
ans.
2018, alors que dans un an, il y a la Coupe du Monde 2019 et que cette jeune n'est toujours pas rentrée en équipe 1, qui est en train de ronger son frein, en train de se dire, mais c'est pas possible, on ferait jamais ça chez Léa. Est-ce qu'on s'est posé la question pour Kylian Mbappé de savoir s'il fallait le laisser avec les espoirs? Non, on l'a fait basculer avec Léa. Voilà, il y a une espèce de gestion qui me fait un peu peur, j'ai envie de résultats, et il faut surtout que le foot féminin français, je suis désolé, je suis parti parce que j'adore ça, mais il faut que le foot féminin français ait des résultats surtout. Il manque toujours un titre pour ces bleus qui remplissent les stades, qui font des cartons d'audience. Ça marche. C'est assez fou, ça marche.
C'est pour ça que le groupe Canal+ d'ailleurs a investi sur la diffusion du championnat féminin. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Ça prouve qu'il va y avoir un petit peu plus de visibilité. C'est vrai que ce football féminin est en expansion. Quand tu parlais de la présence de l'Olympique Lyonnais et cette présence omnipotente, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je connais très très bien Bruno Chéroux, qui est maintenant le directeur sportif du Paris Saint-Germain chez les féminines. Et c'est ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque lui sollicite une joueuse qui peut être l'une des meilleures joueuses, par exemple en Australie ou ailleurs, et ben l'Olympique Lyonnais, lui, arrive avec une proposition, je vais dire un chiffre banal, hein, mais qui peut être de 10-15 000, et ben l'Olympique Lyonnais va doubler, voire tripler cette somme. Et c'est vrai qu'il m'expliquait qu'aujourd'hui, pour lui, même avec l'apport du Paris Saint-Germain et des Qataris qui veulent faire en sorte que cette équipe monte, il n'a pas les moyens de lutter contre ça par rapport à Jean-Michel Aulas qui a misé vraiment sur les féminines.
Et depuis plus longtemps, il a une longueur d'avance.
Pour bien expliquer aux gens, pour le monde professionnel du foot féminin, un top contrat, c'est 17 000 à 20 000 euros. C'est, voilà, si vous êtes une grande joueuse, vous êtes entre 17 000 et 20 000 euros et vous signez partout dans les clubs anglais qui sont en train de... Eux aussi, il y a de l'argent qui est en train de rentrer, donc le championnat anglais est en train de se structurer. Et effectivement, Jean-Michel Aulas, s'il veut que le Paris Saint-Germain ne recrute pas cette joueuse parce qu'il se dit, je préfère l'avoir chez moi, quitte à remplir mon vestiaire, on va mettre 30 000 euros. Et il vient se plaindre de la même chose.
Il y a eu des discussions entre le PSG, en tout cas entre Bruno Chéroux et Jean-Michel Aulas, pour essayer de réguler un petit peu ces choses-là, pour que de façon à ce que les autres puissent exister, parce que c'est vrai qu'il y a que pour l'instant Lyon, et après Paris, on a vu aussi Juvisy qui à un moment donné.
Le Juvisy a un projet avec le Paris Football Club, ils sont partis, ils viennent de fusionner, mais il faut absolument que ce championnat, parce que quand tu disais Canal+ allait investir, pour être allé voir des matchs PSG-Albi, j'ai rien contre Albi, j'ai rien contre Soyaux, club vendéen historique du foot féminin, c'est l'un des berceaux du foot féminin. C'est pas, on peut pas se regarder ça parce que c'est du 6-0, parce que c'est du 8-0. Vous vous rendez compte qu'en Coupe de France, l'équipe de Lyon a mis des 20-0 en Coupe de France face à Besançon. On peut pas faire ça. C'est discrédité finalement. C'est discrédité ce sport-là.
Gilles. Alors je dis quand même attention à l'élite. parce que c'est vrai qu'il faut une élite très forte, il faut un championnat très fort, mais là on parlait des moins de 20 ans, si on va plus bas dans les jeunes catégories d'âge, il y a un problème quand même de maillage pour l'accueil de toutes les jeunes filles ou jeunes enfants au niveau local. Et il faut prendre exemple sur un sport qui surfe sur de très bons résultats au niveau de l'élite, mais qui sait aussi intéresser les petites filles dès le plus jeune âge, c'est l'athlétisme, qui a en ce moment réussi un maillage extraordinaire, notamment dans les villes de banlieue. Moi, je connais l'exemple d'Evry, où ils savent accueillir, ils organisent des petites compétitions, toujours avec un aspect festif. Ce maillage-là, il n'est pas encore tout à fait réussi au niveau du foot. Et pour avoir de très bonnes, moins de 20 ans, pour avoir de très bonnes joueuses encore plus haut, il faut, entre guillemets, hein, ratisser large, c'est-à-dire accueillir le plus grand nombre. Et au niveau du foot, c'est pas encore évident.
Là, t'as vraiment raison, parce que moi, mon fils joue par exemple à l'ACBB, qui est un club juste à côté.
Ah, très bien.
Où il est en U10, et vous avez des filles donc qui jouent contre mon fils, parfois dans d'autres clubs. Pourquoi ces filles-là sont avec les garçons? Parce que justement, elles ne peuvent pas être accueillies dans des clubs, par exemple U10 filles, pour les faire progresser, parce qu'elles ont déjà.
Par
exemple, Paris FC. Les U10, la dernière fois je suis allé à un tournoi, dans l'équipe des 8 garçons, il y avait deux filles qui jouaient dans cette équipe, qui étaient d'ailleurs très talentueuses, mais qui n'avaient pas la possibilité d'aller dans un club, par exemple, filles d'U10, parce qu'il n'y a pas ces structures pour les accueillir.
Toi, après, ils sont petits, ils sont encore mélangés, de toute façon.
Je parlais d'une sorte de philosophie générale. C'est tournons-nous vers le plus grand nombre et dynamisons le football féminin pour que les petites filles aient envie de le faire, comme en ce moment. Énormément se tournent vers l'athlétisme pour imiter les champions et aussi parce qu'il y a eu Usain Bolt, parce que les Français au championnat du monde ont brillé, donc ça attire.
Il faut des résultats, je me permets, il faut des résultats pour cette équipe de France. Ça fait une dizaine d'années que le foot féminin performe en Ligue des Champions,
Lyon a gagné la Ligue des Champions.
Oui, mais il n'y a pas de résultat, Annie.
Et le dernier
Euro est un fiasco avec des joueuses, je suis désolé pour Olivier Chouafny qui a raté sa mission d'emmener des filles. Mais le problème aussi de cette équipe de France, c'est qu'elle est un peu vieillissante et qu'il y a des cadres qu'il faudrait, à un moment donné, chers amis, c'est la
passer
fin,
la
faut,
main.
Faut passer la main. Et on est obligé de les garder parce qu'elles sont les meilleures.
Elles restent plus longtemps.
D'ailleurs. Corinne Diacre, qui a succédé à Echouafny, elle est dans l'entre-deux, là. Elle est entre rappel des anciennes.
Regardez bien les anciennes
et les
qui restent. Moi, je mettrais bien quelques coups de masse, mais ça, c'est mon avis tout à fait personnel. C'est qu'à un moment donné, c'est comme au Paris Saint-Germain, et on en parlera tout à l'heure, à force de faire des mauvais résultats ou de se rater psychologiquement sur la dernière marche ou l'avant-dernière marche, c'est bien, il n'y a pas que l'entraîneur.
Mais Gaëtan Tinet, qui a été rappelé après 4 mois d'absence, hier, par exemple, elle a fait un bon match. L'équipe de France a participé au tournoi aux États-Unis qui s'appelle She Believes Cup, qui rassemble en gros les meilleures équipes du monde. Elle a été battue, cette équipe de France, d'abord par l'Angleterre 4-1, donc ça c'était vraiment une très mauvaise entrée en matière. Ensuite, un bon match nul un partout contre les États-Unis. Et pour terminer, hier, une victoire 3-0 contre l'Allemagne. L'Allemagne, c'est costaud. L'Allemagne, elles sont championnes olympiques en titre. Et là, c'était vraiment encourageant pour cette équipe de
France. C'est intéressant la réaction de championne. Ce qui est inquiétant, c'est de voir que le foot anglais est en train de passer devant. Et c'est-à-dire que en Angleterre, les clubs avec la sélection, il y a un gros travail. Ouais. Et là, c'est ce qu'essaie de faire Corinne Diacre. C'est ce qui manquait un petit peu, c'est que Corinne Diacre va vers les entraîneurs et essaie de fédérer tout le monde pour faire performer cette équipe. Et c'est ce qu'est en train de faire l'Angleterre. Mais l'Angleterre avait du retard et ils sont passés devant l'équipe de France en termes de foot.
Christophe, pour terminer.
Ouais, juste pour tracer un parallèle, alors peut-être un audacieux ou pas, vous allez me dire, entre l'hétérogénéité des clubs français, et donc on n'est pas, le football féminin, si j'ose dire, n'est pas égal sur toutes les parties du territoire français. C'est également le cas chez les moins de 20 ans au niveau mondial, puisque il y a 8 éditions qui ont été jouées pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans, et que 3 pays seulement ont gagné le trophée. Donc je le disais tout à l'heure, l'Allemagne et les États-Unis ont gagné 3 fois chacun, et les 2 autres titres, c'est pour la Corée du Nord. Donc, le foot féminin, à ce niveau-là, dans cette catégorie d'âge, n'est pas encore un sport universel.
Bah, si vous prenez, par exemple, les 9 premières éditions de la Coupe du Monde de foot masculin, il y avait aussi une sorte de
il y avait
l'Italie et puis l'Uruguay. C'était pas très réparti non plus. Mais c'est vrai que le football féminin souffre d'un manque de structure dans certains pays et d'un manque d'intérêt politique, il faut le dire aussi. Ouais. Tous les pays ne sont pas égaux en matière de dynamisation du foot féminin. Donc, il faut que ça change.
En tout cas, rendez-vous à Vannes, donc dans la ville de Philippe Zégraf, si vous voulez le revoir.
Le coup d'envoi sera donné par Philippe Zégraf, et il sera en dédicace
le 5
à la buvette.
Prochain, non, en tout cas. Et ça sera un France-Ghana.
Derrière les brilliant
tackle. Trippier on the follow-up. There's the chance. Oh, it's gone in. Didn't strike it cleanly. But Heung-Min Son strikes again. Wembley is his place. Spurs 1, Juventus 0. And Spurs ahead on aggregate.
La sovrapposizione proprio di Dybala, arriva anche Lichtsteiner dalla linea di fondo, vediamo se riesce a mettere il pallone in mezzo, lo fa bene in competenza di Kadir e poi Higuain ha segnato la Juventus, riesce, attenzione, è solo Dybala, è solo Dybala, ha segnato la Juventus. La Juventus in pochi minuti ha ribaltato la situazione, ora conduce per 2-1. La Juventus, gentili ascoltatori, è una squadra incredibile.
Una squadra incredibile, et oui, cette Juventus est vice-champion d'Europe, hein, rappelons-le, se sont hier soir qualifiés en Ligue des Champions en battant Tottenham, donc sur son propre terrain. Les Spurs qui avaient réussi à tenir en échec la vieille dame à Turin il y a 3 semaines, eh bien ils ont perdu à Wembley sur le score de 2-1. Le match aller était 2-2. Et là, on a eu l'impression d'assister à un vrai match de Ligue des Champions. Matteo Cioffi, bonjour.
Bonjour, bonjour Annie.
Matteo, dites-moi, la presse italienne aujourd'hui, j'imagine qu'elle est dithyrambique pour la Juve.
Oui, même si ce matin on a lu quasiment les mêmes titres sur les principaux journaux italiens qui ont comparé les joueurs de la Juve à des lions. Personnellement, j'aurais utilisé un autre genre d'animal, comme par exemple des renards, vu que la victoire est arrivée d'astuce, hein. Donc Lyon ou Renard, l'opinion publique a salué ce passage au quart de finale comme un petit exploit, surtout si on pense à ce qui était en train de se passer après une heure de jeu, vraie angoisse pour la Juve. Mais comme la Gazzetta dello Sport l'a répété encore une fois, il ne faut jamais donner pour morte la vieille dame. Ça fait des années, des décennies qu'on le dit en Italie, il faut le comprendre aussi à l'étranger. D'un autre côté, la République a voulu rendre hommage aux anciens de cette équipe, c'est-à-dire Buffon, Chiellini, Barzagli, en remarquant que ce match-là se gagne aussi grâce à l'expérience. Buffon, Chiellini, Barzagli ont soif de revanche sur la scène internationale après l'élimination contre la Suède.
Et oui, Matteo, on a vu d'ailleurs le grand sourire de Gianluigi Buffon. Vous étiez justement, vous aviez la chance d'être à Londres et de voir ce match, de le commenter, Habib. Je disais un vrai match de Ligue des Champions. Évidemment, c'est pour faire opposition à un autre qui était d'un moins bon niveau. Vous avez vu un bon match?
Oui, mais je pense que la confrontation aller-retour est pour moi le plus beau match des huitièmes de finale de Ligue des Champions en termes d'intensité, en termes de qualité de jeu, parce qu'il faut pas oublier que Tottenham a été très très bon sur les 180 minutes, ça c'est aussi un paramètre à prendre en compte. Et ce qu'on a dit tout à l'heure, on entendait una squadra, c'est ça la Juve, c'est une équipe. Ils sont en difficulté pendant une heure. Là, on parle de Buffon, de Barzagli et de Chiellini. Ce sont sûrement les trois joueurs les plus en difficulté sur les 180 minutes. Buffon n'a pas été à son avantage au match aller. Il n'est pas décisif non plus sur le but de Son. Chiellini et Barzagli ont été bougés par Son et par Harry Kane. Mais c'est vrai que sur les 30 dernières minutes, ce sont eux deux qui sauvent la Juventus de Turin sur des retours incroyables défensivement. On voit l'état d'esprit de Buffon et de Chiellini qu'on a déjà vu par le passé. Et c'est vrai qu'il faut jamais enterrer la vieille dame parce que c'est une équipe par l'expérience, par cette passion, et puis surtout parler du coup tactique d'Allegri, parce que c'est lui qui change les choses. À un moment donné, un entraîneur, on a tapé sur certains entraîneurs ces dernières semaines, ces derniers jours, mais lui a vraiment changé le visage de son équipe. Il a fait, je pense, un mauvais choix au départ, avec le placement un petit peu aléatoire d'Alessandro, avec cette défense à 3 qui repassait dans une défense à 4 lorsqu'ils étaient dans une position basse. Dès qu'il est repassé avec un 4-4-2 très simple, avec, on l'a dit, Lichtsteiner sur le côté droit, Asamoah à gauche, et puis on avait du coup Alessandro, Douglas Costa et puis Dybala qui tournait autour d'Higuain. Le jeu de la Juve s'est éclairé, c'est vrai que là ils ont fait la différence en 30 minutes, donc c'est un superbe match de la part des Turinois.
Et oui, surtout ils ont été menés 1-0 et ils réussissent à marquer ces deux buts dans les 3 minutes autour de la 65e minute. On y revient sur ce match, ne raccrochez pas surtout Matteo, on vous retrouve juste après la pause pour continuer à parler de ce grand match de Ligue des Champions hier soir.
Radio Foot International. Annie Gasnier.
Le retour de Radio Foot International sur RFI avec Gilles Verdez, Habib Bey, Bruno Salomon et avec Christophe Jousset. Nous en étions à ce match, ce très beau match et très disputé entre Tottenham et l'équipe de la Juventus de Turin. Vous parliez de tactique et on va écouter quelqu'un qui l'a senti cette tactique, qui l'a vu, qui l'a observé et de très près puisque c'était le captain de Tottenham, à savoir Hugo Lloris. Écoutons.
Parfois le football est cruel. Le match a tourné en 3-4 minutes. C'est dommage parce qu'on avait fait certainement plus dur en ouvrant la marque et en arrivant à la mi-temps à 1-0, c'était quand même le scénario parfait. Mais voilà, en deuxième mi-temps, on a commencé à leur laisser un peu d'espace et à ce niveau-là, c'est compliqué. Surtout la manière dont on concède les deux buts, c'est un peu frustrant, mais en face de nous, c'est une grande équipe qui sait être très réaliste, qui sait subir, qui sait défendre. Ils ont leur philosophie de jeu et ils ont l'habitude de gagner pas depuis hier, mais depuis des années. C'est la culture du club et ils l'ont montré aujourd'hui.
Matteo, la culture du club de la Juve, c'est la culture du football italien qu'on a revu hier soir?
Ben sûrement, hier on a revu ce fameux Catenaccio que n'oublions pas a été créé en Italie et qui a permis au calcio d'inscrire les plus grandes et importantes victoires dans son histoire. La preuve donc hier aussi avec la Juve, la défense s'est serrée autour de son gardien et ils ont commencé à lutter sur tous les ballons. On a vraiment revu ce football italien qui à nous les Italiens nous plaît beaucoup et on se demande si ce choix-là n'aurait pas dû se faire aussi ce fameux 13 novembre face à la Suède.
Oui.
En oubliant que la Suède a joué le Catenaccio face à l'Italie.
Oui, il n'était pas du bon côté cette fois-là. Gilles.
On débat souvent de l'importance du rôle d'un entraîneur dans le foot. On a vu hier soir comment un entraîneur italien, alors c'est leur spécialité depuis toujours, hein, mais a donné une leçon tactique à un entraîneur qui s'appelle Pochettino, dont on parle au PSG par exemple. Il va falloir qu'il apprenne la tactique avant de venir parce que...
Attendez, il y a beaucoup de noms autour du PSG, ouais, on va y venir.
Il est l'un des possibles, il a pris une leçon terrible. C'est vrai que Habib le disait, Allegri a changé tout son dispositif. Et mon deuxième point, ce qui est remarquable, c'est comment les joueurs italiens savent répondre à une demande tactique de leur entraîneur. Pour rendre intelligent le foot de cette manière. C'est-à-dire qu'ils comprennent tout, ils ont tout assimilé. Ils ont des faiblesses, ils n'iront pas à la Coupe du Monde.
Même s'il n'y a pas que des Italiens sur le terrain, quand même.
Oui, mais je veux dire, c'est une culture italienne. Ça a toujours fait mon admiration. Et la troisième chose, donc il y a cette mentalité. Et la troisième chose, c'est cette joie de défendre. On parle souvent de grands attaquants, ils en ont, ils ont Higuain, Dybala. Mais cette joie de défendre ensemble, cette rage de conserver son but inviolé. Ils en ont pris un, mais pas deux. Et ça, c'est beau. On les voyait se féliciter quand un tir passe à côté, quand ils font un tacle. Il y a que pour faire ça.
Oui. Donc c'est une comme des buteurs devant qui viennent de marquer.
Exactement. Ouais. C'est une superbe qualif à l'italienne.
Bruno.
Moi, j'ai envie que... Alors c'est sur Pochettino, je trouve dur, mais on verra tout à l'heure. Mais sur moi, j'ai aimé Tottenham, en fait. J'ai aimé la fraîcheur de Tottenham. J'ai aimé ce qu'ils ont envoyé. Après, il leur manque des cadres. Il leur manque... En fait, ce qui leur a manqué, c'est 3 minutes. Voilà. Et surtout, d'un cadre qui, tout d'un coup, quand il sent que le bateau tangue, qui est pas capable d'aboyer. C'est-à-dire que on avait des jeunes fougueux quand Son se fait marcher dessus. Mais normalement, t'as...
Ouais, c'est carton rouge.
Et puis Azagli, t'as 4 gars, rouge. Voilà pour Azagli, et t'as tout le monde qui doit lui sauter dessus. Là, tu te dis, zut, c'est pas une vraie équipe anglaise, parce qu'il manque l'aboyeur, le méchant qui vient dire. Non, mais, et là, c'est ce que j'ai senti. Mais elle avait de la fougue, elle était généreuse. Après, ben voilà, cette vieille dame, elle est quand même magnifique.
Après, ils peuvent s'en vouloir, hein, parce que le nombre d'occasions qu'on est joueurs de Tottenham hier, je pense à Son, je pense à Harry Kane, même si sur cette tête poteau sortie par Basile, il est hors jeu.
Ouais, ouais.
Mais ce qui est sûr, c'est que au vu des deux matchs, parce que moi j'ai commenté les deux matchs, celui en Italie et celui d'hier, pour moi, Tottenham en termes de qualité de jeu, en termes de qualité technique, est au-dessus. Maintenant, on sait que l'expérience, et Gilles en parlait, c'est vrai que lorsqu'il y a une modification tactique, il suffit pas juste de modifier tactiquement les choses, il faut aussi que les joueurs puissent s'adapter. Et hier, on voit Lichtsteiner qui rentre, il faut pas oublier que Lichtsteiner n'avait pas été inscrit sur la liste de la Ligue des Champions pour la Juventus de Turin sur la première partie. C'est-à-dire qu'il avait été mis de côté par Allegri. Hier, il le fait rentrer, Lichtsteiner fait une passe décisive, c'est Khedira qui l'a fait, mais c'est lui qui centre sur le but d'Higuain. Il est très très bon lorsqu'il rentre. Et puis de pouvoir se réadapter comme ça dans un système, c'est pas donné à tout le monde. Donc ça prouve l'intelligence de tous ces joueurs. Et puis la qualité qu'a eu Allegri et l'impact qu'il a eu sur son équipe. Donc je pense que c'est important quand on dit qu'aujourd'hui, une fois que le match a commencé, l'entraîneur n'a plus d'impact. Bah si, il a un impact de par ses changements, de par cette finesse tactique qu'il peut avoir aussi dans ses grands rendez-vous.
C'est vrai qu'ils sont aussi hyper réalistes dans les deux zones de vérité. Et ça, ça a toujours été la particularité du football italien. Extrêmement rugueux défensivement. Et puis vous avez... deux occasions de but, enfin peut-être un peu plus, mais voilà, avec Higuain et Dybala. Higuain, je le trouve extrêmement fort parce que présent dans les très grands rendez-vous, et Dybala transparent, sauf qu'il marque le but de la qualif, et il rate pas son duel. Et ça aussi, c'est le football italien. Il est pas italien, mais c'est cette manière de tuer les matchs quand il faut les tuer.
Oui, alors que finalement, peut-être que sur le total du temps de jeu, ce que vous dites, Habib, c'est peut-être Tottenham qui aura été meilleur.
Mais dans le money time, Annie, c'est-à-dire qu'à la 30, voilà, à 30 minutes de la fin, il y a ce tour de magie, il y a cette mise en place, et tout d'un coup de se dire, on va pas, excusez de l'expression, on va pas crever, quoi. Et on y va, et quand tu les vois, mais ils sont en train d'éructer. Il y a un moment, j'ai cru que Buffon allait éclater les mains de Chiellini quand il se tape dans les mains, parce que tellement ils ont envie d'y aller. Mais c'est ça aussi qui est beau, c'est-à-dire de se dire, ils se sont fait bouger dans tous les sens. Effectivement, Tottenham sur l'ensemble de la partie, mais ils ont pris effectivement une leçon sur les 30 dernières, c'est génial.
Christophe,
je ne sais pas si vous avez vu la réaction de Chiellini, ce qu'il a dit à BT Sport, la chaîne britannique, non. Ça vaut quand même le coup. Il a dit, c'est toute l'histoire de Tottenham, ils se créent souvent beaucoup d'occasions, mais à la fin, il leur manque toujours quelque chose. Ça fait plaisir.
Ouais, mais c'est
sur ces deux matchs, il a raison. Vous savez, sur ces deux matchs, il a raison.
Les leçons qui sont à tirer quand même de ce qui est en train de se passer sur ces huitièmes de finale de Ligue des Champions, c'est que les institutions, celles qui sont respectées par leurs joueurs, celles qui sont pas là à vouloir arriver comme ça, mais c'est pareil pour Tottenham, c'est un jeune club encore qui a des idées, qui veut taper à la porte du des quarts de finale et des demi et du dernier carré, mais il y a ces grandes équipes, ces grands clubs, ces coachs aussi, qui sont respectés par leurs joueurs.
Et c'est deux premiers groupes qui sortent.
Voilà, c'est
ça. Faut pas l'oublier. Premier groupe sort, Paris Saint-Germain, premier groupe sort, et il y a encore la Roma qui peut sortir en premier groupe.
Parce qu'en gros, c'est bien beau d'être fort en phase de poule, mais c'est dans les grands moments et les grands instants. Moi, je pense que ces joueurs de la Juve et de du Real, ils ont un réveil spécial Ligue des Champions.
Et là, on parle pas de qualité, hein. Ce que dit Bruno, c'est pas de la qualité, parce qu'aujourd'hui, Chiellini, par exemple, n'a pas sa place au PSG. Barzagli n'a pas sa place au PSG. Par contre, là où ils ont leur place, c'est sur l'aspect un petit peu mental sur cet aspect de leadership que nous on retrouve pas dans ce club du Paris Saint-Germain. Si par exemple Thiago Silva ou même un Marquinhos avait l'état d'esprit d'un Chiellini, d'un Buffon ou autre, je peux vous garantir que le PSG serait sûrement aujourd'hui en quart de finale de Ligue des Champions.
En tout cas, les hommes de la soirée à Wembley, c'était des Italiens qui dansent le tango, n'est-ce pas, puisque c'était Higuain et Dybala, 64e, 67e minute. Écoutons-le, Gonzalo Higuain évoquer son but.
Je suis content, c'était un match compliqué contre une grande équipe qui nous a mis sous pression pendant tout le match, avec tout un public derrière Tottenham. On savait que l'ambiance serait au rendez-vous. Ils ont marqué, mais nous sommes revenus et on est heureux d'obtenir la qualification dans un stade aussi mythique que Wembley. Alors évidemment, je suis ravi de pouvoir aider l'équipe et très fier de ce combat qu'on a remporté. On a mérité cette qualification car on a vraiment tous poussé dans le même sens.
Matteo, Gonzalo, Higuain, des hauts et des bas sous le maillot de la Juve, mais finalement toujours là quand il faut.
Absolument, oui. Il ne faut pas oublier qu'Higuain n'était pas à 100% hier soir. Il ne s'est pas totalement rétabli de sa blessure à la cheville. Et pourtant, il a fait ce qu'on lui a vu faire, c'est-à-dire un but et une passe décisive. C'est ça, Gonzalo Higuain, c'est ça, à mon avis, le fait d'être considéré un champion. Il a été, comment dire, spectateur pas payant pour une bonne heure de jeu, puis il s'est réveillé, il a fait c'est des choses incroyables, il a permis à son équipe de se qualifier. Et je répète, c'est ça qui veut dire être un champion.
Oui, je crois que ici vous allez nous écouter, peut-être après on va en reparler. Gilles,
Higuain me fait penser à Trezeguet. Alors pas tout à fait dans le style de jeu, mais dans l'aspect hyper compétiteur. C'est des joueurs qui ont pas, je veux dire, de fulgurance souvent. C'est des joueurs qui disparaissent parfois des matchs. C'est des joueurs qui ont pas un aspect hyper spectaculaire ou dont on peut discuter certaines qualités, mais qui marquent. C'est des machines à marquer, des machines réalistes qui savent se transcender pour les grandes compétitions. Et c'est des joueurs comme ça qui font gagner des matchs et gagner des trophées.
Et il a beaucoup d'activité. On se rend pas compte de l'activité d'Higuain, mais c'est un joueur qui court beaucoup. Moi, au match aller, il était tout seul devant. Il était vraiment esselé. Il a énormément couru. Et hier également, parce que c'est vrai qu'il est pas servi, mais parce qu'il y a eu une vraie difficulté hier pour la Juve d'évoluer au milieu de terrain avec Pjanic, Khedira et Matuidi qui a été en grande difficulté, mais il revenait de blessure. Mais je trouve qu'Higuain a vraiment un gros volume de jeu. C'est vrai qu'il apparaît avec
un petit peu de surpoids, mais visuellement, ça veut peut-être pas dire qu'il l'est, mais visuellement, on a l'impression de voir quelqu'un qui a 2-3 kilos de trop. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un vrai abattage physique, c'est Gonzalo Higuaín.
Matteo, une dernière chose au sujet de ce match. Finalement, Wembley, c'est un stade qui réussit aux Italiens. Racontez-nous pourquoi.
Ah oui, en effet, ce stade mythique, bon, que les Italiens adorent, commence à porter bonheur au calcio. Car, bon, si on fait une recherche, on s'aperçoit que c'est à Wembley que l'AC Milan en 1963 a gagné sa première Coupe des Champions, s'imposant 2-1 sur le Benfica. Le club de Parme, à son tour, a soulevé une coupe des coupes, c'était en 1993, après avoir battu 3-1 au final des Belges d'Antwerp. Et puis encore, en 1997, l'Italie, comme nationale, avait réussi à obtenir une qualification pour le championnat du monde grâce à une victoire par un 1-0 contre l'Angleterre, entraîné à ce temps-là par Glenn Hoddle. Ajoutons donc l'exploit de la Juve hier soir, et on peut dire vraiment, on peut le crier, grazie Wembley.
Mais par contre, les clubs italiens avaient des problèmes contre les clubs anglais en Ligue des Champions. Il n'y avait pas eu de réussite pour les clubs italiens, ça a été changé hier par la Juve.
Pas Wembley.
Oui, ouais. C'est vrai, vous avez raison, Matteo.
Grazie Matteo, alors. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Pour cet éclairage Ciao. Italien. Et puis, grazie aussi à Christophe Jousset, qui cède son siège dans cette émission à Olivier Pron. Bonjour Olivier.
Oui, j'aime cette idée. bonjour à tous.
Et puis, on va dire benvindo à Elcio Ramaglio. Bonjour Elcio.
Benvindo, merci. Bonjour. bonjour à tous.
Alors, on a terminé sur ce football italien. Demain, on fera dans le Café des Sports le bilan de ces matchs de Ligue des Champions. On va revenir à un sujet qui nous tient un peu tous à cœur parce qu'il y a beaucoup de questions à se poser, c'est celui autour du Paris Saint-Germain.
Ici, c'est Paris.
Ici, c'est donc Paris et des lendemains moroses à Paris autour du Parc des Princes et du Paris Saint-Germain. L'élimination en Ligue des Champions continue évidemment d'alimenter les conversations, pas seulement dans les médias, pour essayer eh bien d'imaginer des lendemains meilleurs. Alors, quelles solutions avant de les envisager, de se poser plein de questions et d'émettre des hypothèses autour de cette réorganisation, peut-être au lendemain donc de l'élimination. On a une question à vous poser, Elcio Ramaglio, vous, le Brésilien de ce studio aujourd'hui. Est-ce que Neymar va revenir ici au Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il va rentrer, mais surtout rester? Parce que revenir, évidemment, il a un contrat, on le sait tous. Mais est-ce qu'il va rester, selon vous? Qu'est-ce qu'on dit au pays?
Apparemment, il va rester. Hein. Pour l'instant, il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'il va partir peut-être au Real Madrid, l'intérêt du Real Madrid. Mais pour l'instant, on ne voit pas des signes de sa part ni de son entourage qu'il va partir du PSG. Surtout dans ce contexte où il doit se soigner déjà et aussi envie d'une Coupe du Monde. Donc, c'est un sujet un peu compliqué de voir où Neymar va jouer la saison prochaine, si ce n'est pas à Paris. Pour l'instant, il n'y a pas de signes, en fait, particuliers qui disent qu'il ne veut pas rester à Paris, qu'il ne veut pas jouer ici.
Il y a peut-être deux signes, c'est qu'on sait que Neymar est venu ici pour être, entre guillemets, le numéro un et dans l'ambition de gagner un ballon d'or sans être dans l'ombre de Messi. Mais il y a aussi cette phrase de Marquinhos, notamment, vous avez dû l'entendre, vous y étiez au stade quand il a dit « Je lui demande de rester à Neymar pour continuer le projet du club ». Est-ce qu'il y a des inquiétudes parmi ses camarades de jeu?
Oui, peut-être. Apparemment, je ne sais pas. Hein, c'est un peu compliqué. Si quelqu'un du vestiaire a dit ça, ben, je ne sais pas. Mais certainement, il y aura des changements. Mais par rapport, je pense qu'il va dépendre aussi du poids qu'il va avoir dans la décision de la nouvelle composition du PSG. Donc, ça veut dire de l'entraîneur surtout, et aussi d'autres joueurs peut-être, hein, qu'il va peut-être essayer de faire venir, comme il a fait avec Dani Alves. Hein, on se souvient aussi.
C'est d'abord l'entraîneur, et l'entraîneur qui décidera qui vient ou pas, et donc
ça sert à. Mais on marche sur la tête. Si c'est demain Neymar qui choisit les joueurs qu'il doit faire venir au Paris Saint-Germain, moi je vous dis, si Neymar veut partir, faut le laisser partir.
Moi aussi.
C'est une institution. À un moment donné, il faut arrêter d'être cadré sur la star Neymar. Moi, c'est quelque chose qui pour moi est incompréhensible d'entendre aujourd'hui. On va savoir comment il va, s'il va bien, s'il vit dit bien, s'il aime bien l'entraîneur, s'il aime bien celui-ci ou celui-là, il a fait venir Dani Alves. Non mais moi je pense que le PSG, si demain le PSG doit grandir, c'est que Neymar doit s'installer dans le projet du Paris Saint-Germain. Il faut revenir à des choses simples. Il faut arrêter toutes ces choses compliquées que sont en train de faire les Parisiens, les Qataris dans leur communication, dans tout ce qu'ils font. Aujourd'hui, les clubs qui marchent, on parle du Real Madrid, on parle du Bayern, mais regardez la gestion de ces clubs-là. Depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans, ils font des choses simples. Ils font pas des choses compliquées. C'est-à-dire qu'ils font des choses simples. Ils font des transferts simples, alors simples avec de l'argent, mais ils font des équipes. Regardez, Zidane aujourd'hui n'a pas recruté. Il a été champion d'Europe, il aurait pu dépenser des millions, il n'a pas recruté. Le Bayern aujourd'hui, ils se sont séparés d'Ancelotti, ils sont repartis chercher Heynckes, ils font des choses simples. Le Paris Saint-Germain est toujours en quête de vouloir être extraordinaire, de surcommuniquer, de faire des choses qui sont... Neymar aujourd'hui est un joueur du Paris Saint-Germain et le club ne doit pas tourner autour de lui. Il doit y avoir une structure qui décide de comment va s'installer Neymar avec une équipe compétitive. C'est pas lui qui va décider de qui va venir, de
oui,
qui
mais
va entraîner.
Il peut décider en fonction de l'entraîneur qui sera choisi. Je dis pas, sera-t-il consulté? Ça, c'est un autre problème. Mais en fonction de l'entraîneur qui va arriver, il peut lui décider ou dire je reste ou je reste pas.
Mais s'il veut pas rester, vous allez pas le garder. De toute façon, il n'aura pas de rendement.
Ouais, de toute façon, le Paris Saint-Germain avait l'occasion de faire ce coup-là. La problématique, c'est que le club n'est pas assez solide, pour être très clair, pour recevoir la déflagration qu'était Neymar. On est en train de voir toutes les fondations qui sont en train de trembler dans tous les sens. Je rejoins, mais à 200% ce que vient de dire Habib, c'est à un moment donné, si le garçon, il veut choisir son entraîneur, choisir ses potes, choisir machin, écoute, tu sais quoi? En plus, ils vont avoir des problèmes financiers avec le fair play financier. Il va peut-être falloir trouver un petit peu plus d'argent parce que l'élimination en Coupe d'Europe.
Les gens reviennent à l'attaque, n'est-ce pas?
Mais pour revenir sur le cas Neymar, il a pris entre guillemets le pouvoir, mais c'était pas là qu'on lui demandait de prendre le pouvoir. On lui demandait de prendre le pouvoir sportif, être un leader sur le terrain. Il a vu qui était Messi, il a vu comment se comportait Messi, il a vu des grands joueurs au Barça. Sauf qu'il voit qu'il y a une institution en face pour lui. J'allais être vulgaire, mais en fait, il s'assoit dessus.
Il la respecte pas.
Il la respecte pas. Donc, il y a un moment donné, si tu respectes pas l'institution, tu sais quoi?
Mais c'est aussi la direction du PSG. Hein,
mais ça, on va y revenir sur les solutions à avoir.
Bien sûr.
C'est qu'à un moment donné, moi, je regrette. Alors, je suis un nostalgique, mais tant pis.
Brésilien.
D'un autre Brésilien qui, lui, a toujours eu le respect de l'institution. C'est Leonardo qui avait fixé un cap. Les Qataris ont fait n'importe quoi derrière avec Ancelotti. Ils se sont fâchés, ils se sont brouillés, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Mais au moins, il y avait quelqu'un qui se respecte. À première vue, ce qui revient du vestiaire, c'est que Neymar parle comme un chien. Du départ, j'en ai parlé ici, de la personne qui s'occupe du linge, jusqu'au directeur sportif Antero Henrique, qui n'a même pas l'occasion de pouvoir lui parler. À un moment donné, c'est pas toi qui fais le boulot. Tu te tais, tu touches la paye. Thiago Motta l'a très bien dit en sortie de match, on touche une paye, on respecte le maillot qu'on a et on va au boulot. C'est quand même important.
Gilles, bon, vous décrivez quand même un monde un peu idéal. Hein. Neymar, il s'assoit sur l'institution parce que de mon point de vue, il n'y a pas d'institution. Il y a un président fantoche qui obéit aux consignes de l'émir du Qatar. Il y a un directeur sportif qui est nul, qui est la risée de l'Europe entière. Je vous demande ce qu'il est venu faire, sinon toucher son chèque et faire que tout le monde devient paranoïaque et en burn-out au club, le Portugais Henrique. Et vous avez un entraîneur qui est pour moi du sixième niveau européen. Donc Neymar, il dit à tous ces gens-là, je vous reconnais pas. Et quand vous dites c'est dommage, etc., Neymar se prend pour une star. Mais Neymar, c'est une star. Neymar, c'est Hollywood. Donc c'est lui qui va décider s'il reste ou pas. S'il est champion du monde, à mon avis, il reviendra pas parce que ça ne l'intéressera pas de venir au PSG. Et franchement, je vois pas un champion du monde revenir jouer au foot à Paris, en Ligue 1, c'est pas possible. Donc s'il est champion du monde, il va leur dire basta, ciao, maintenant vous trouvez une solution. Les 222 millions d'euros, on voit comment on les paye, mais je m'en vais. Et puis Neymar, il va dire, bah voilà, j'ai fait une erreur d'un an, je pars ailleurs. En fait, c'est Neymar le chef. Et vous avez l'air de le déplorer, mais c'est lui le chef.
Non mais il se comporte pas.
Il est le chef parce que c'est Neymar.
Mais quand il était au Barça, il a pas été le chef.
Non, mais c'est justement c'est la faillite du PSG.
On est d'accord. Nous ce qu'on cible, Gilles, c'est justement le comportement du joueur qui est lié justement à cette non-direction.
Oui, mais maintenant comment on fait? Maintenant c'est Neymar qui décide de tout.
Show. Et en fait, ça c'est ce que je disais. Le PSG, mais je crois que j'en ai pas discuté avec, mais avec des amis, je leur disais, j'ai très peur parce que Neymar est trop gros pour le PSG. Alors tu le tentes parce que t'as les moyens, donc t'y vas parce que t'es gourmand et machin. Mais l'institution était pas, enfin en tout cas, ce club est trop jeune et ses fondations trop fragiles pour avoir ça. Et là, je vous dis pas s'il se barre, mais alors vous êtes déjà le cocu de la terre entre ce qui s'est passé avec le Barça, ce qui s'est passé avec le Real, là t'as Neymar qui reste pas un an, je te dis pas, mais tu passes pour l'idiot du village, quoi.
Elcio, est-ce que quand il est arrivé, certes il était beaucoup plus jeune et c'était une étoile montante venant du Brésil, donc on l'observait beaucoup, Neymar, quel était son comportement quand il était à Barcelone? Est-ce qu'au fil du temps, il y en a qui disent qu'il a aussi énervé un peu l'institution du côté de Barcelone?
Non, mais il est arrivé dans un autre contexte, en
oui,
fait.
Oui, bien
hein.
sûr.
Il était juste...
Il y avait Messi à côté de lui, après il y a eu Suarez.
Il avait, voilà, il était toujours sur l'ombre, en fait, de Messi.
Il sera toujours dans l'ombre de Messi.
Exactement.
Quoi qu'il arrive,
oui,
il sera toujours dans l'ombre de Messi. Si un jour l'émission Neymar s'est
déconçue
de Messi, ça n'arrivera jamais. C'est-à-dire que ce qu'a fait Messi aujourd'hui, c'est inscrire l'histoire, comme l'a fait Pelé. Neymar sera toujours dans l'ombre de Messi. Même s'il va au Real, même s'il va à Manchester, il sera toujours dans l'ombre de Messi. C'est qu'à un moment donné.
Ça veut dire qu'il ne peut pas être numéro 1?
Si, il ne peut pas être numéro 1. Aujourd'hui.
Dans un club.
Non, mais il sera numéro 1 au PSG. Il va aller au Real si Ronaldo s'en va. Il sera numéro 1 au Real, mais il sera toujours dans l'ombre de Lionel Messi, parce que Lionel Messi aujourd'hui c'est 5 ballons d'or, donc avant que Neymar puisse dépasser Messi, il va falloir attendre 6 ou 7 ans, donc dans les 6 ou 7 prochaines années, quoi qu'il arrive, il sera dans l'ombre de Lionel Messi, c'est comme ça.
Et la question c'est de savoir s'il y a un club comme le PSG, c'était son pari de, justement de l'élever
capable.
Voilà, au numéro, capable de voilà, de les faire les numéros en fait, hein,
oui, c'est
ça,
vrai.
Et après la question c'est de savoir si avec le PSG il va réussir, mais les problèmes malheureusement voilà, qu'il n'a pas pu montrer contre le Real Madrid par exemple, voilà, s'il était complètement indispensable,
il a pu au match aller,
il a pu au match aller, il n'a pas réussi exactement.
Mais le match retour, bon, je suppose qu'il doit être triste Neymar de, que le club aille pas plus loin, mais le match retour c'est un triomphe pour Neymar. Sans moi, vous pouvez pas gagner. Il est encore plus star de son point de vue à lui. C'est j'allais dire magnifique, c'est peut-être exagéré, mais pour Neymar, c'est un succès terrible. Ça
non,
veut dire sans
pas,
moi, vous êtes incapable.
Ah, vas-y, t'en as pris trois au match aller.
Ouais, bah oui,
oui, mais c'était le match.
Bah moi demain, tu viens me dire, écoute, sans moi, vous pouvez pas gagner. Je te dis, écoute, mon coco, sans toi, on en a pris trois. Avec toi, on en a pris trois.
Je sais pas s'il le dira, mais à mon avis, il le pense sérieusement. Et n'oubliez pas non plus une déclaration de Thiago Silva. Il y a Marquinhos, il y a Thiago Silva qui dit, on verra après la Coupe du Monde. C'est pour ça que je vous dis que tout va se jouer là. La priorité de Neymar cette saison. Et c'est souvent le cas avec les Brésiliens, je vous l'avais dit ici en début de saison, en année de Coupe du Monde, les Brésiliens, c'est une gestion extrêmement particulière.
Bruno, j'ai entendu hier, je sais plus qui est ici, dire le directeur sportif du PSG, c'est le père de Neymar.
Puisque vous lui avez ouvert la porte. Mais non, mais c'est vrai, c'est ça la problématique. C'est que Antero Henrique est arrivé en même temps que lui, ça a été le premier dossier qu'il a géré, il a dû amadouer et en fait il est en train de se faire manger. Mais pour revenir quelques instants sur le club et vraiment sur le Paris Saint-Germain, si le PSG veut grandir, déjà il va falloir donner vraiment les clés à un entraîneur. Mais quand je vous dis des clés, c'est de ne plus faire de la gestion à la Jean-Michel Aulas du côté de Lyon qui veut juste un conducteur pour sa Ferrari.
Donc il faut que le Qatar vende. Il faut que le Qatar vende. Le Qatar laissera jamais les clés.
Il faut savoir le faire. Et on verra s'ils sont capables de le faire.
Bruno, est-ce que Nasser est menacé, selon vous, par l'émir, hein, évidemment, puisque c'est le seul qui peut.
Ça fait deux fois qu'il y a des fiascos qui lui sont quand même en partie imputés. Il y a quand même autant Chelsea, bon. Il y avait eu Chelsea il y a trois ans, bon ça va. Mais autant Manchester City et le Barça, il est aussi dans la charrette parce que on a laissé les clés. Et là, il n'y a pas que Neymar, on a laissé les clés aux joueurs. Je vous rappelle que le club a vécu sans directeur sportif fixe pendant quatre ans. Je veux dire une chose, quand Olivier Létan à l'époque venait parler à Zlatan, Zlatan le regardait la tête au pur, il disait mais qui tu es toi, enfin tu viens même pas me donner un conseil, ce n'est pas normal. C'est-à-dire que la vraie problématique c'est que il grandit ce club, mais il a pas mal de déformations. C'est-à-dire que voilà, pour vraiment aller plus loin, il va falloir faire table rase, donner les clés vraiment sportives à un entraîneur. Si Unai Emery veut ne pas mettre Dani Alves, Tati Daniel là, qu'on a vu jouer mardi soir, qui avait l'âge de ses terre, bilan des opérations, on pouvait mettre Thomas Meunier, c'était pareil, il y avait peut-être même un peu plus de vitesse. Oui, ou Habib Bey.
Non, je pense pas.
Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, l'entraîneur peut entraîner, et Ancelotti avait secoué la clochette en disant « Hop, 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 vous venez vous mêler de ce qui vous regarde pas, il y a un petit match nul à Reims qui vous plaît pas, vous venez m'engueuler comme un jeune débutant ?» Allez, je pars.
Mais oui,
c'est une défaite, hein, ça, s'il vous plaît, merci.
Ouais, le gentleman.
C'était une défaite. Ah, oui, avec les crocodiles de Leonardo, pardon, je m'excuse.
Elcio, vous le sentez vous aussi qu'en année de Coupe du Monde, les Brésiliens qui jouent en Europe sont difficiles à gérer, comme le dit Gilles?
Ah, mais c'est un peu compliqué. Bon, dans le cas de Neymar, c'est sûr voilà, qu'il a pensé à la Coupe du Monde. Il a réfléchi à ça.
Le Brésil entier a pensé à la Coupe du Monde en voyant sa blessure.
Oui, tout à fait. Et d'autres joueurs aussi.
Les Argentins?
Oui. Oui, c'est normal parce que.
Il y a les Argentins à Bib.
Mais d'ailleurs, là-bas, au Brésil, est-ce qu'on parle du PSG, de l'importance que Neymar a au PSG, qu'il leur a manqué, ou on lit uniquement Neymar à travers la prochaine Coupe du Monde?
Non, en fait, ça a commencé à partir de la Coupe du Monde avec sa lésion, bien évidemment. C'était l'inquiétude immédiate des Brésiliens. Après, on a commencé à parler. Il y a même des spécialistes qui contestent beaucoup les pouvoirs que le PSG a donné à Neymar, en fait. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui contestent justement ces pouvoirs critiques.
Ouais.
Tu peux pas contester et voir par exemple que Pelé met des messages sur Internet en disant par pitié soit prêt soit là. En fait, on est même en train de lui donner les clés du pays là maintenant. C'est-à-dire qu'on non mais c'est vrai, on est en train de dire pour 2018 il y a que toi qui peux nous emmener très très haut. Enfin, tu vois, il y a un moment. En fait, c'est un enfant gâté depuis toujours.
Et au PSG, quel entraîneur peut emmener le PSG très haut alors?
Là, comme ça.
Je pense qu'on peut ramener n'importe qui aujourd'hui. Quand je dis n'importe qui, je pense que Guardiola demain ne viendrait pas dans ce système-là du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire qu'il n'accepterait pas de travailler pour le Paris Saint-Germain avec ce système-là. Donc, de toute façon, aujourd'hui, tous les grands entraîneurs, et c'est ce qu'a fait Ancelotti, quand il a senti qu'à un moment donné, il n'avait pas les clés du vestiaire, il n'avait pas les clés du sportif, il s'est dit, attendez, moi, vous me demandez de faire comme vous avez envie de faire. Il est parti. Et qu'aujourd'hui, il faudra absolument restructurer le club de tout en haut jusqu'à ce que ça devienne pour un entraîneur, dans une facilité de travailler, ce qui n'est pas le cas pour Unai Emery.
Travailler le sportif.
On tape aujourd'hui sur Unai Emery, mais aujourd'hui, quand on regarde les joueurs qui ont été défaillants, on a un joueur qui est là depuis 5 ans. Verratti, par exemple, a été défaillant sur ce carton rouge parce qu'on a déjà vu ça sur toutes les années précédemment. Et c'est un joueur qui était là avec Leonardo. Donc, à partir de là, moi, je pense qu'il faut changer beaucoup de choses.
C'est la fin de ce Radio Foot. Merci beaucoup, messieurs. On aura le temps de reparler de l'après-élimination au Paris Saint-Germain. Merci aussi à David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission avec Pierre Guérin. Et merci à Guillaume Ploquin.